Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
Bienvenue au mordu de San Diego de Compostelle. Mon invité cette semaine, Yann-Lou Renard, un pèlerin qui nous a fait vivre de grandes émotions avec « J'emmène vos rêves au bout du monde ». Alors, je vous souhaite à tous et chacun une excellente écoute et buen camino!
J'emmène vos rêves au bout du monde. Question-réponse, on the road again! Et sur un chemin de Compostelle en Belgique, pour parler de Compostelle, c'est pas mal, mais ce serait tellement plus puissant si je pouvais être en Espagne. Peut-être que si je ferme les yeux et que je demande à Jack de me téléporter quelque part en Espagne, peut-être que ça marchera. Bon, après tout, j'ai rien à perdre. Allez, j'essaye.
Alors, ce que je conseillerais aux marcheurs débutants qui voudraient tenter l'aventure, eh bien, c'est tout simple. Si le chemin vous appelle, allez-y, il n'y a pas de hasard. Foncez, ouvrez-vous tout simplement et vous serez protégé du chemin. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai sélectionné cette question. Je la trouve très pertinente. Mais je ne sais pas comment y répondre. Alors, j'ai rencontré deux ou trois personnes qui ont manqué d'humilité sur le chemin et qui ont dû abandonner pour des raisons physiques. Et j'avais l'impression un peu que c'était une sorte de punition du chemin. Il faut, je pense, sur ce chemin, être un minimum humble. Et quand ça m'est arrivé d'avoir des souffrances physiques, je me suis moi-même posé la question si je n'avais pas manqué d'humilité et si j'avais bien fait les choses les heures avant, les jours avant, etc. Et ce qui me permettait justement de me remettre en question à chaque fois et de changer, d'améliorer les choses qui ne me plaisent pas en moi. Alors, défi, punition, finalement, c'est peut-être un peu des deux. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun.
Alors, bienvenue au mordu de San Diego de Compostelle. Mon invité cette semaine, Yann-Lou Renard. Allô, Yann, je suis ultra, ultra content de t'avoir. Tu m'as fait vivre, à moi, mais à plusieurs personnes qui t'ont suivi sur Facebook, de grandes émotions. Je voulais juste te dire, avant de commencer, que c'est exceptionnel ce que tu as fait. Tu as mis tellement d'émotions dans tes reportages qu'on était vraiment sur le chemin. Je tiens à t'en féliciter, là.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui aussi. Et ben écoute, par rapport à toutes ces vidéos, par rapport aux émotions, j'ai juste essayé d'être le plus intègre possible et de montrer comment, en tout cas moi, je vivais le chemin. Après, ce sera propre à chacun, évidemment. Mais voilà, j'ai montré comment moi, je vivais le chemin, autant dans les bons moments, dans les mauvais moments, les rires, les pleurs, enfin voilà, j'ai essayé d'être au maximum le plus intègre.
Puis, j'emmène tes rêves au bout du monde. Comment t'es venu cette idée-là au départ? Comment ça a commencé?
Eh bien, je pense vraiment que c'est le chemin qui me l'a envoyé, cette idée. En fait, au départ, je voulais partir au mois de mars, ok, pour un mois en Belgique. Je suis artiste et quand est arrivé le Covid, j'ai perdu tous mes contrats. Et je me suis retrouvé sans travail et sans aide sociale, parce que c'est pas comme en France ou peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, on n'a pas de statut d'intermittent du spectacle.
Ok.
Et donc voilà, mon départ pour le mois de mars a été annulé, et je me suis dit bon bah maintenant j'ai la chance d'avoir le temps de faire le chemin de Compostelle au complet, en partant du Puy-en-Velay donc jusque Santiago. À la base, c'était juste le projet. Et puis, l'inconvénient, c'est que j'avais plus de travail, donc j'avais plus d'argent. Les économies que j'avais faites pour faire ce chemin, normalement, au mois de mars, une partie du chemin, en tout cas, au mois de mars, eh bien, j'ai dû l'utiliser pour payer mon loyer, pour manger, etc. Mmh. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je vais partir sans argent. Il y en a qui le font, c'est faisable. Après, quand même, partir sans argent, c'est faisable, oui, mais c'est quand même vachement plus difficile. Mmh. Et puis, je sais pas. C'est une nuit, m'est venue cette idée. Je pense que cette idée, c'est le chemin qui me l'a envoyé. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas créer une cagnotte en ligne pour essayer de récolter un peu d'argent pour pouvoir partir. Mmh. Alors au départ, c'était vos rêves, vos souhaits, vos prières vers Saint-Jacques de Compostelle. Et j'ai lancé cette idée. Et j'ai récolté plus ou moins 600 euros. Bon, 600 euros, c'est pas suffisant pour faire tout le chemin. J'ai vendu quelques trucs chez moi qui ne me servaient plus.
Oui.
Voilà. Donc, je suis parti avec peut-être un peu moins de 1000 euros. Voilà. Et les vidéos, à la base, je me suis dit, je vais les faire pour les gens qui m'ont confié leurs rêves, leurs souhaits et leurs prières, pour qu'ils puissent suivre l'évolution. OK ? Et voilà. Et finalement, j'ai eu cette idée aussi de me dire, bah alors, j'emmène vos rêves jusque Saint-Jacques. Mmh. Et puis, pourquoi pas Fisterra ?
Ouais.
Fisterra, c'est le bout du monde, donc j'emmène vos rêves au bout du monde.
Ouais.
Et voilà, l'idée est venue comme ça. Et puis quand j'ai commencé ces vidéos, bah, ça a plu à toute une communauté de pèlerins, que ça soit en France, en Belgique, au Québec et dans d'autres pays francophones un peu partout dans le monde entier, même des pays anglophones, j'ai été étonné de ça. Mmh. Et voilà, et donc de plus en plus de gens m'ont fait des dons. Et c'est grâce à tous ces dons d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, et, bah, même ceux qui n'ont pas fait de dons, c'était pas du tout le but principal, mais bah, voilà, c'est grâce à tout ça que j'ai pu faire le chemin au complet, du Puy jusque Fisterra et Moksham.
Mais moi, je dois te dire une chose là, qui m'a vraiment impressionné, là, c'est j'ai vu plusieurs films sur Compostelle, et je dois te dire que ben, tes petits reportages, là, je ne sais pas comment que toi tu veux les appeler, mais...
Je ne sais pas non plus.
OK, mais je dois dire que c'est le meilleur que j'ai vu à vie.
C'est gentil.
Tu as énormément de talent parce que je me disais, lui, il fait son montage après ses journées sûrement. Je ne sais pas comment tu faisais. Alors, c'est pas évident. Tu enregistrais avec ton téléphone ou une caméra ou...
Non, juste le téléphone.
Juste le téléphone. Le visuel est exceptionnel. Tes entrevues aussi que tu faisais avec les gens, souvent, là, je me rappelle aussi de ta première jour 1 avec Marie, je crois qu'elle s'appelait, la femme au Puy en Vallée. Le son est exceptionnel. On pense qu'on est dans un studio. C'est hyper bien tourné. Et l'autre chose qui m'a vraiment impressionné, vu que moi aussi je suis un marcheur, mais on dirait qu'on est porté à vouloir s'exprimer sur le chemin. Et toi, tu as laissé place à beaucoup de musique et beaucoup d'ambiance. Tu t'es mis un peu de côté. Et ça, j'ai été vraiment impressionné. Ton choix de musique est exceptionnel aussi. On est dans une ambiance vraiment ailleurs. Et moi, je te le dis, il faut absolument que tu ailles plus loin avec ça. Tu as un talent fou, mon ami. C'est incroyable.
Merci beaucoup.
Puis, je voulais savoir, Jack. Jack, le nom que tu as donné au chemin, comment c'était venu ça? C'est-tu, t'as commencé directement en disant que tu vas l'appeler Jack ou c'est venu à force de marcher?
C'est venu au fur et à mesure. Au début, le chemin, je l'appelais le chemin.
Oui.
Et puis, je ne sais plus à partir de quand c'est venu, mais j'ai commencé à l'appeler Jack. Mais c'est vrai que au début, je mélangeais un peu. J'appelais le chemin, mais quand je devais parler au chemin, quand j'avais des comptes à rendre avec le chemin,
oui,
c'était avec Jack. Et donc Jack, ben, ça vient de Saint-Jacques, évidemment.
Oui.
Et voilà, c'est venu comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc quand j'avais des journées, par exemple, difficiles, parfois je criais comme ça sur le chemin, Jack, il faut qu'on cause, Jack, il faut qu'on cause.
Ouais. Puis Jack, il doit être devenu ton meilleur ami au fur et à mesure des journées, oui, finalement, hein?
Exactement, mais c'est même plus que ça. Il m'a protégé.
Oui.
Il m'a protégé, il m'a tout donné, il m'a offert tout ce dont j'avais besoin. Donc c'est devenu un meilleur ami, mais bien plus encore. Je ne saurais pas. Je ne suis pas, entre guillemets, croyant catholique.
Mm-hmm.
J'ai mes propres croyances. Je crois en la terre, en la vie, aux énergies, etc., au soleil, la lune, l'univers, mais. Je ne crois pas spécialement en Dieu, comme la plupart des gens peuvent l'imaginer, l'homme barbu dans les nuages. Mais il se passe réellement quelque chose, hein, sur ce chemin. Et Jack, voilà, c'est plus qu'un ami. Mais je ne saurais pas. C'est pas un père, c'est pas un Dieu, c'est plus qu'un ami. Enfin,
non, c'est une présence. C'est une présence.
Oui. Ouais. Une magie.
Oui, une magie, exactement. Puis toi, tu as choisi de commencer ton chemin à partir du Puy-en-Vallée. C'est quand même assez loin, là. C'est quasiment 1700 km de Compostelle.
Ah oui.
Alors, pourquoi avoir choisi le Puy-en-Velay pour commencer?
Eh bien, j'ai hésité plusieurs fois. J'ai hésité au départ, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit j'ai envie de faire la voie de Vézelay. Peut-être parce que c'est la plus proche, le gros départ le plus proche de Belgique.
D'accord.
Et puis bon, en lisant des trucs, sur, j'ai vu des comparatifs entre la voie de Vézelay et la voie du Puy-en-Velay. La voie du Puy-en-Velay est quand même réputée pour être la plus belle, la plus fréquentée et la mieux servie au niveau des auberges, etc.
Mmh.
Donc voilà, j'ai hésité aussi à partir de chez moi directement, mais là ça rajoutait presque 1000 km en plus.
Ouais.
Et alors, partir de chez moi, c'est des petits chemins de Compostelle qui sont pas très connus, il n'y a pas beaucoup d'auberges, en plus en période Covid, j'avais pas beaucoup de chance d'en trouver des ouvertes.
Exact.
Donc ben voilà, et comme j'avais envie aussi d'être dépaysé directement dès le premier jour, ben finalement mon cœur est allé vers la voie du Puy-en-Velay.
Ok, puis toi... T'es parti quelle date? T'es quasiment le premier pèlerin à avoir parti après la COVID, quasiment, ou?
Ah, je suis le premier pèlerin belge, en tout cas, à être arrivé au Puy-en-Velay post-COVID. En fait, ici, oui. Les frontières entre la Belgique et la France se sont ouvertes le 15 juin.
OK.
Donc, j'attendais impatiemment.
Ouais,
et le 15 juin, à 6 heures du matin, j'étais dans le train pour partir au Puy-en-Velay.
OK.
Je suis arrivé le 15 juin et j'ai démarré mon chemin le 16.
OK, OK. Puis toi, quand t'as commencé, t'avais aucune expérience en tant que marcheur, finalement?
On peut dire ça. Je m'étais entraîné un peu avant.
OK.
Mais bon, voilà, des petites randonnées par chez moi. Je vis dans une belle petite vallée en Belgique
okay.
où il y a pas mal de chemins de randonnée, dont des chemins de Compostelle qui passent par chez moi.
Oui.
Et donc voilà, je me suis entraîné en moyenne 10 km par jour, on va dire 5 jours sur 7. Pendant peut-être 2 ou 3 mois et encore parfois je passais des semaines sans marcher aussi hein.
Okay.
Et puis j'ai essayé des randonnées un peu plus longues, 15 km, 18 km jusque 22 km.
Okay.
Mais voilà, c'était non, je n'ai pas l'âme d'un randonneur à la base.
OK. Mais qu'est-ce qui t'a fait en sorte de choisir Compostelle comme point de départ finalement? Est-ce que tu n'avais vu des films ou tu en avais entendu parler ou
C'est marrant parce que ce chemin, il a commencé à m'appeler il y a plus ou moins 3 ans, je dirais,
okay.
dans ces alentours-là. Et je ne sais pas pourquoi, oui, j'avais vaguement entendu parler du chemin de Compostelle, mais je connaissais pas plus que ça. À la limite, je ne savais même pas où se trouvait Santiago.
Okay.
Je pensais que Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était en France, ou je ne sais pas.
Ouais, ouais.
Et donc, je ne sais pas. Déjà, à partir de ce moment-là, l'idée a commencé à m'appeler, enfin, le chemin a commencé à m'appeler.
Ouais.
Pour quelle raison, je ne sais pas. Et puis, plus le temps avançait, plus oui. c'était fort. Et puis, j'ai programmé quelques départs, et puis la vie a fait que non, je ne pouvais pas partir à ce moment-là. Et ça, je pense que ça fait partie de la magie du chemin. Oui. Quand le jour où on se trouve sur le chemin, c'est que c'est ce jour-là qu'on doit partir, et pas un autre.
Oui.
Et donc voilà, finalement, ce chemin m'appelait de plus en plus fort. Après, je me suis trouvé des raisons pourquoi je veux faire ce chemin. Ben, j'ai sans doute besoin d'introspection, de me reconnecter avec l'enfant moi,
ouais.
de faire quelques deuils sentimentaux, etc.
Mmh.
Voilà, de guérir des blessures du passé, de mon enfance. Voilà, donc ça, c'est toutes les raisons qui m'ont convaincu
ouais.
À faire ce chemin. Mais après, au début du chemin, c'était toujours ça aussi que j'avais en tête. Et puis, plus j'avançais, et plus ces raisons, je les oubliais.
Mmh.
Et j'en ai découvertes d'autres, finalement.
Ouais.
La reconnexion avec la nature, la reconnexion avec l'être humain,
mmh.
Pouvoir de nouveau faire confiance en la vie, pouvoir faire confiance aux gens qu'on rencontre, pouvoir se faire confiance soi-même, retrouver l'amour de la vie, l'amour des gens, l'amour de soi, plein de nouvelles raisons qui sont apparues. Et je pense qu'il y en aura encore. Il y en a que j'ai encore pas compris
mm-hmm.
et que je comprendrai dans les semaines ou les mois qui arrivent.
Oui, exactement. Parce que souvent, les gens qui pensent aller faire Compostelle, on pense regarder le chemin dans un livre, tout ça, mais en réalité, le chemin, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup les rencontres qu'on fait, tout ce qui est abstrait au chemin, là, qui est vraiment impressionnant, puis tout ça. Mais toi, au départ, vu que tu n'avais pas une grande expérience de marcheur, puis quand même, tu partais quand même d'assez loin, est-ce que tu as pensé abandonner quelquefois ou vraiment t'étais focusé à réussir ta tâche?
Alors oui, franchement, il y a eu des moments où je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là?
Ouais.
Et j'ai eu des envies d'abandonner, parce que physiquement, c'était dur, psychologiquement, c'était dur.
Ouais.
Mais quand j'ai eu aussi cette idée d'emmener les rêves au bout du monde, c'était aussi pour que ça me serve de moteur.
Oui.
Pour pas faire demi-tour. Parce qu'avant de partir, je m'étais dit, j'ai intérêt à aller jusqu'au bout. Parce que si je vais pas jusqu'au bout, ça va être un effondrement en moi. Par rapport à la confiance en moi, ça va être un échec. Ça va être, je vais me dire, ah, j'ai pas réussi et ça va être une catastrophe. Je me connais et je sais que si je n'avais pas,
la descente si a été difficile, ouais.
Ouais, voilà. Et donc, le fait d'emmener les rêves des gens jusqu'au bout du monde, ça me servait aussi de moteur. C'était pas le seul moteur, évidemment, mais ça en faisait partie. Une grosse partie, d'ailleurs. Une grosse partie de moteur. Et donc, voilà. Des envies d'abandonner, j'en ai eu plusieurs fois, mais j'ai tenu le coup. Et alors, j'en avais parlé à un ami. Je lui avais dit, j'ai peur d'abandonner, j'ai peur d'avoir envie d'abandonner. Et puis, dans ma réflexion, on en était venu à se dire que des moments d'abandon, je vais en avoir. Mais justement, il faut que je résiste à tous ces moments. Et c'est en résistant que le meilleur viendra après.
Oui, exact.
Je comprends, je m'exprime peut-être mal.
Non, je comprends très, très, très bien. Ouais.
OK. Il y a eu un moment où j'avais vraiment envie d'abandonner. J'en pouvais plus, j'étais en pleurs. C'était un peu avant Saint-Jean-Pied-de-Port.
Ok.
Et j'ai téléphoné à cet ami et je lui ai dit, je pleurais, je lui ai dit, j'en ai marre, j'ai mal, je suis fatigué, j'en peux plus. Je crois que je vais arrêter à Saint-Jean-Pied-de-Port et je continuerai la suite au mois d'avril, etc. Et il m'a dit, attends, rappelle-toi ce que tu m'as dit quand on a parlé de ça, de ces moments où on a envie d'abandonner.
Ouais.
Et il m'a rappelé. Il me l'a rappelé. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai. Allez, il faut que je continue, il faut que je prenne sur moi.
Oui.
C'est peut-être quelques jours, quelques mauvais jours à passer, et puis après, le meilleur sera pour la suite. Et en effet, et je suis vraiment content de ne pas avoir abandonné et d'avoir pu aller jusqu'au bout du monde. Ça, c'était quelque chose de très, très important pour moi, pour plein de raisons.
Oui. Mais je sans indiscrétion, est-ce que tu laissais une famille derrière toi ou tu partais là, tu étais célibataire ou
Alors j'étais célibataire.
OK.
Donc ça n'a pas posé de problème.
OK.
J'ai une fille mais qui a 18 ans et qui vit chez sa maman, donc ça va.
D'accord.
Je lui en avais parlé et ça posait aucun problème non plus. Voilà, je laissais juste derrière moi, finalement, mes amis, mes proches, ma famille, etc.
Okay.
Mais je n'avais même plus de travail, donc je laissais même pas un travail derrière moi, puisque avec la période Covid, tout était annulé.
Ouais.
Donc voilà, pour ça, je n'avais rien vraiment qui me retenait en Belgique.
Et pour revenir au chemin, justement, à cause de la COVID, tu devais voir moins de pèlerins que prévu, sûrement. Il devait y avoir moins de monde sur le puits. Tu as sûrement marché souvent tout seul. Est-ce que tu as trouvé ça dur de marcher seul ou...
Alors, j'aime beaucoup marcher seul, en fait.
Okay.
Et je pense que le chemin, il doit se faire comme ça. Après, chacun le vit comme il veut. Mais faire le chemin entre amis ou en couple ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Non, on parle de la magie.
Pour moi, je pense que ça doit se faire seul. Mais après, c'est bien de temps en temps de marcher avec des gens qu'on rencontre.
Mm-hmm.
Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est bien de marcher seul, c'est bien de marcher avec des gens. C'est bien de pouvoir avoir le choix.
Oui.
Et là, il y avait quand même assez de personnes pour pouvoir marcher de temps en temps avec des belles personnes. C'est vrai qu'on était en moyenne 10 fois moins. Moi, le jour où je suis parti du Puy-en-Velay, on était 45 et c'était déjà un record comparé au jour suivant et au jour d'avant.
Okay.
Et la moyenne à cette période-là, c'est 450, ouais. Donc 10 fois moins.
Mais est-ce que tu as vu une différence? Y avait-tu beaucoup d'albergués, de fermés?
Alors, oui, mais comme on était... Enfin, beaucoup, tout est relatif. Il y avait quelques auberges de fermées. Je pense qu'il y avait en moyenne 80% d'auberges d'ouvertes. Maintenant, ils devaient réduire le nombre de places pour les normes Covid.
Mm-hmm.
Mais comme il n'y avait que 10% de pèlerins, 80% d'auberges ouvertes, ben, il n'y avait aucun problème pour se loger. Que ce soit sur la France ou sur l'Espagne, je n'ai eu aucun souci.
OK, d'accord. Puis toi, est-ce que tu dormais toujours dans les auberges ou toi, je pense que tu étais en tente, hein, bivouac, je pense, au début?
Au début. Ouais. Au début, j'avais emmené ma tente.
Ouais.
J'avais un sac de 15 kilos.
Okay.
Et alors, la tente, je l'ai utilisée une fois, sur le chemin, en tout cas. J'ai très mal dormi. J'ai dormi que 2 heures cette nuit-là. J'ai eu froid. C'était dans l'Aubrac. Enfin, voilà. Et je me suis dit le lendemain, non, c'est bon. Moi, la tente, c'est plus pour moi. J'ai fait beaucoup de camping dans ma vie, mais là, Là, j'ai plus envie. Les auberges sont ouvertes et tout. Encore une fois, la tente, c'était un objet que j'avais emporté. C'était une peur que j'avais emportée.
D'accord.
La peur de ne pas trouver les auberges ouvertes à cause du Covid. Voilà. Mais j'ai bien vu qu'il n'y avait aucun problème. Et donc, je l'ai abandonnée, ma tente. Enfin, je l'ai laissée quelque part avec un petit mot pour le suivant. Celui qui veut la prendre, il la prend. Voilà.
D'accord. Puis, ceux qui n'ont jamais marché le Puy-en-Vallée, qu'est-ce que tu leur dirais là, à ces gens-là qui commencent par le Puy-en-Vallée? Est-ce qu'il y a des étapes qui t'ont vraiment marqué? Y a-t-il des endroits où est-ce que tu as moins aimé? Ou...
Alors, la voie du Puy-en-Vallée, franchement, elle est magnifique. Elle est réputée pour être la plus belle... la partie de le Puy-en-Vallée jusque Conques, en tout cas, est réputée pour être la plus belle partie de tout le chemin jusque Santiago. Et franchement, je confirme, c'est super beau, c'est magnifique. Après, physiquement... c'est pas facile. Tout le début, justement, les 3 ou 4 premiers jours, ça ne fait que monter, descendre, mais des montées de 600 mètres de dénivelé.
Ouais,
pareil pour les descentes. Et pendant 3-4 jours, ça n'arrête pas. Après, quand on arrive sur le plateau de l'Aubrac, ça va un peu mieux. Et puis, c'est quand on redescend sur le Lot que là, c'est plus facile. Jusque Saint-Jean-Pied-de-Port, où là, il y a l'ascension des Pyrénées qui elle, est quand même assez difficile. Alors, j'ai beaucoup aimé la partie entre le Puy-en-Velay et Conques. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'Aubrac. C'est magnifique.
Ah oui.
Ça ressemble un peu à ce qu'on m'a dit, parce que moi, j'ai jamais vu ces pays, mais on m'a dit que ça ressemblait à l'Écosse ou à la Nouvelle-Zélande. C'est très joli. Mais tout le reste aussi, hein. Tout le reste est très joli. Il y a peut-être sur la partie, sur la voie du Puy, une partie un peu plus embêtante pour certaines personnes, c'est le Gers. Quand on traverse le Gers.
Oui.
Voilà. Là, c'est de la campagne, c'est beaucoup de champs de maïs et des champs de tournesol. Et ça dure quand même assez longtemps. Je sais plus combien de jours, mais un peu plus d'une semaine, je pense, de marche. Et donc, il y a des personnes qui se lassent de ces paysages. Après, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Parce que ça ressemble un peu à la campagne belge. Donc là, je me suis senti un petit peu chez moi.
Ok.
Et voilà. Après, c'est vrai que ça n'a rien d'époustouflant au niveau des paysages, mais ça permet aussi justement d'entrer en introspection, comme dans la Meseta en Espagne, de pouvoir entrer en introspection et faire notre voyage intérieur.
Mmh. Exactement.
Voilà.
Mais je vais te poser une question que je pose à tous mes invités. J'en ai 3 que je pose toujours. Mais je voudrais que tu me parles des rencontres que tu as faites sur le chemin. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué sur mes chemins que j'ai faits, que j'ai trouvé très difficile dans le sens de quitter mes amis, mes nouveaux amis.
Ah ouais.
Je veux que tu me parles de ça parce que je trouve que c'est une partie du chemin qui est tellement importante. Alors,
Oui. Ah oui, c'est tellement important. Et alors, j'avais vu beaucoup de choses sur Compostelle avant d'y aller. À partir du moment où j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai regardé pas mal de trucs sur YouTube, j'ai lu pas mal de choses aussi. Et sur les rencontres, non, j'avais lu que oui, on fait des rencontres, oui, mais je savais pas, je m'y attendais pas à ce que ça soit si puissant. En tout cas, pour ma part, ça l'a été. Je suis quelqu'un qui est assez sensible et je m'attache très vite aux gens. J'offre ma confiance assez rapidement aussi. Voilà, ça a été pour moi. Je pense le point le plus important de mon chemin de Compostelle, ce sont les rencontres. Et comme tu dis, à chaque fois, c'était une déchirure quand on devait se séparer. Donc, par exemple, le hasard, non. Le chemin fait qu'on se rencontre avec une personne, deux personnes ou un groupe de personnes. On va marcher ensemble pendant quelques jours. Et puis, au bout d'un moment, ces personnes-là arrêtent. Il y a des personnes parfois qui ne font que des petites tranches de 100, 200 kilomètres. Et donc, tu sais qu'arrivé à un tel endroit, eux, ils ont fini leur chemin. Ou alors, ils doivent faire une pause parce qu'ils sont blessés. Ou alors, ils marchent plus vite. Des gens qui marchent 30, 40 kilomètres par jour. Moi, ma moyenne, c'était entre 20 et 25. Enfin, parfois plus, mais pas tous les jours. Et donc, voilà, on quitte ces personnes. Et c'est clair que j'ai eu beaucoup de mal au début avec ça. J'ai eu beaucoup de mal de vivre à chaque fois des petits deuils. Et ça m'a fait pleurer. Je ne compte même pas le nombre de fois. Et c'est en arrivant proche de l'Espagne, en quittant un des derniers groupes que j'avais rencontré en France, où là je me suis dit bon maintenant c'est tout quoi, je peux plus souffrir de ça, je peux m'enrichir de ces rencontres, mais il faut plus que j'en souffre. C'était vraiment difficile pour moi de gérer ça et j'ai fini par me mettre un bouclier. Et donc les rencontres suivantes. Je sais, je me préparais déjà, en fait, à la séparation.
Ouais.
Donc, je me mettais une sorte de bouclier. Je sais pas si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas, ça m'a aidé quand on se séparait à ne plus trop en souffrir. Et mais alors parfois, il m'est arrivé de, quand je savais que c'était le dernier jour que j'avais pu les revoir, soit de partir en douce, à l'anglaise, comme on dit.
Oui.
Donc, quand je dis pas au revoir, je me barre. Ou alors, voilà, où je leur disais clairement, quoi, c'est bon, on se fait pas d'adieu, on se dit qu'on se reverra peut-être un jour. Allez, ciao, casse-toi.
On dirait qu'on apprend à se faire une petite carapace pour éviter de souffrir. Mais moi, ce que
Une
j'ai.
carapace émotionnelle.
Oui, exactement. Parce que moi, ce que j'ai remarqué sur le chemin, je ne sais pas si tu penses la même chose, c'est qu'on est tellement concentré sur le chemin que quand on a une conversation avec quelqu'un, c'est important.
Oui,
On
bien sûr.
ne se fait pas déranger, on a l'impression d'être 100% dans la conversation et on s'attache aux
Exact.
gens très facilement.
Exact. Ce qui est drôle, c'est qu'on va avoir une relation pendant une semaine avec une personne sur le chemin. On a l'impression que ça fait 2 ans qu'on se connaît. On va par exemple revoir cette personne-là, ça m'est arrivé, hein. On va la revoir 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois après sur le chemin. Le chemin fait que hop, on retombe ensemble.
Ouais.
Eh ben, c'est les grosses accolades,
Ah
c'est les grosses retrouvailles, c'est comme si on se connaissait depuis toujours et
ouais.
c'est très profond. Et alors, ce qui est de beau dans les rencontres sur le chemin,
Ouais.
le plus important, c'est que personne n'a de masque. Alors, c'est le cas de le dire en période Covid, mais personne n'a de masque. On se fiche totalement du statut social de l'autre personne.
Exact.
On se demande même pas ce qu'on fait dans la vie. On s'en fout. C'est pas le plus important. On va vraiment à la rencontre de l'âme des gens. Et on est tous là pour la, enfin, pour des raisons différentes, mais on est tous sur le chemin, on va tous dans la même direction. On a ce point en commun. Et les relations se font très facilement grâce à ça. Il y a des gens que j'ai rencontrés sur le chemin avec qui j'ai échangé des heures et des heures de conversations à refaire le monde, enfin des conversations superbes, mais j'aurais pas eu l'occasion de les avoir ces conversations avec ces mêmes personnes si je les avais juste croisées dans la rue, dans la vie de tous les jours. On se serait pas arrêté, on n'aurait pas discuté. Que là, sur le chemin, oui, ça se fait, mais de manière super naturelle. C'est comme si on faisait tous partie de la même famille.
Puis exactement comme tu dis, il n'y a aucune classe sociale, il n'y a personne qui sait qu'est-ce qu'on fait dans la vraie vie. Puis je pense que les gens, quand ils marchent le chemin, on dirait qu'on a toute l'intention de devenir une personne meilleure.
Oui, bien sûr.
On veut tout s'améliorer.
C'est vrai.
On est plus ouvert. Tu sais, il y a plusieurs chemins de randonnée dans le monde, mais je pense qu'il n'y a aucun chemin comme Compostelle pour faire des rencontres comme ça. C'est
Ah oui, c'est sûr.
exceptionnel, extraordinaire aussi. Puis je voudrais aussi que tu me parles des gens. Je parle plus des résidents, exemple en Espagne ou en France. La gentillesse des gens quand ils voient les pèlerins arriver, c'est exceptionnel, ça aussi.
Oui. Alors ça, je m'étais posé la question justement avant de partir. Parce que vu le nombre de pèlerins qu'ils voient passer par jour, je me dis, ils doivent en avoir marre. Eh bien non, pas du tout. Au contraire, ça m'est arrivé souvent de discuter avec des gens du village, que ce soit en France ou enfin en Espagne, un peu plus difficile parce qu'il y a la barrière de la langue, mais en France, c'est arrivé très souvent. Et ça se fait aussi de manière naturelle. Et quand on a besoin de quelque chose, on a besoin d'eau, par exemple, on frappe à une porte, eh bien, on est accueilli les bras ouverts et on discute avec les personnes et les personnes sont contentes de nous voir. Je leur ai même, ça m'est arrivé même d'ailleurs de demander s'ils en avaient pas marre de voir des pèlerins passer tous les jours. Et ils me disent non, au contraire. Et là, avec la période Covid, il y en a beaucoup moins, ça nous manque. Donc non, il y a vraiment un accueil aussi des gens, des villageois, qui est extraordinaire. Mais c'est pareil pour l'Espagne. Après, bon, évidemment, j'ai pas pu avoir des belles conversations avec des habitants espagnols parce que moi, je ne parle pas espagnol. Mais on voit, si, direct, tout le monde vous croise et tout le monde dit buen camino avec un grand sourire, etc. Ou parfois ils nous parlent et quand ils comprennent que ben, nous on les comprend pas, bon ben voilà, tant pis, la conversation s'arrête. Mais ils viennent quand même pour nous parler. Et non, c'est super. Au niveau des villageois et des commerçants aussi. Cette année, les commerçants en Espagne, je les ai trouvés un peu tendus. Mais je pense que c'est la crise du Covid, car l'Espagne est fortement touchée et donc ils ont peur que nous, les pèlerins, on transporte la maladie de village en village. Et je peux comprendre.
Oui, exact. Et une autre question que je pose souvent, puis moi qui me touche énormément, c'est est-ce qu'il t'est arrivé des petits miracles sur les chemins? Il doit t'avoir
Oui.
arrivé des petites choses incroyables. J'aimerais ça que tu m'en racontes quelques-unes.
Oui, je pense que ça arrive tous les jours, des petits miracles.
Oui.
Hein, tu demandes au chemin et tout se met en place. Par exemple, si tu as trop chaud, tu demandes une petite brise de vent et ça, c'est fou. À la seconde même, tu l'as. Une petite. Hein. Et puis, tu te dis waouh. Et tu redemandes encore. Encore un peu, s'il te plaît. Et hop.
Ah ouais.
Un peu plus fort, un peu plus longtemps. Et hop, et ça marche. T'as soif, tu veux, tu n'as plus d'eau, soit tu vas chez quelqu'un, ou soit il y a une fontaine qui apparaît, enfin, soit si tu la demandes. Quand j'étais perdu sur le chemin français,
ouais.
Je disais chemin, avec l'accent du sud de la France, chemin, et une balise apparaissait. Et direct, deux secondes, je voyais, mes yeux étaient attirés vers la balise.
Ouais.
Je disais chemin, et hop, je voyais la balise. C'était impressionnant. Il s'est passé plein de choses comme ça. Alors, j'ai aussi une petite histoire à raconter. Ça, je marchais avec un pèlerin. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il est d'accord que je raconte son histoire. Mais, et voilà. Et je marchais avec quelqu'un depuis quelques jours. Et à un moment donné, cette journée-là, cette personne a saigné du nez 3 fois.
Okay.
Il n'avait jamais saigné du nez de sa vie. Eh bien, on lui a dit, écoute, il faut que tu ailles chez le médecin. C'est pas normal, etc. 3 fois de suite, ça peut être la chaleur, mais quand même, ça pourrait être autre chose. Donc, il faut absolument que tu ailles chez les médecins. Et il s'arrêtait à une telle date, il lui restait 3 jours, donc il a décidé de rentrer chez lui. Il est rentré chez lui, ce soir-là, sa maman est décédée. Mmh. C'était, alors là, c'est pas, on peut pas appeler ça un miracle, mais c'était, je pense, un appel du chemin. Il devait rentrer chez lui.
Mmh.
C'était un signal.
Ouais.
Voilà, il y a plein de choses qui se passent comme ça sur le chemin, qui sont vraiment magiques. Oh, j'ai encore d'autres exemples sans doute, mais là, ça me vient pas en tête. Mais il y a eu des choses beaucoup plus magiques que ce que j'explique avec le point d'ombre ou quoi que ce soit.
Ouais, ouais. Souvent, ce qui arrive, c'est que des fois, tu racontes ça à des gens. Là, c'est sûr que toi, ça fait pas longtemps que tu es revenu, mais tu vas raconter ces histoires-là avec des gens qui n'ont pas marché et à un moment donné, peut-être qu'ils vont.
Ils prennent pour un fou.
Ouais, ils vous prennent comme un fou, mais. Mais ça arrive vraiment, là, sur le chemin, il y a tellement d'histoires qui arrivent, c'est incroyable. Là.
Tellement, tellement, tellement. Dès que tu as besoin de quelque chose, le chemin te l'offre.
Oui. Il y a une autre partie en Espagne qui est importante, puis je pense que tu l'as vécu d'une certaine façon. Moi aussi, j'ai vécu ce passage-là assez extraordinaire, c'est la Croix de Cruz.
Ouf, oui. La Croix de Fer, la Cruz del Ferro.
Oui, exactement. Je me rappelle que quand j'ai vu ton reportage, j'avais été très touché. Parle-moi-en. Mais il y a une question que je vais te poser juste avant. Est-ce que tu avais dormi dans un albergue juste avant d'arriver à la Croix ou tu continuais ton étape? Pourquoi je te pose ça? Parce que souvent, quand on arrive à la Croix, on a le choix de dormir, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a comme 3 albergues juste avant. On dort là et on commence notre étape du lendemain par la Croix de Cruz. Et
ah
moi,
oui.
Moi, j'ai pas dormi dans les albergues. Alors, j'ai continué l'étape et j'étais un petit peu plus fatigué. Et quand je suis arrivé à la Croix de Cruz, j'ai éclaté en sanglots. Là.
Non, sur la Croix de Fer, en effet, oui, je me souviens maintenant du village juste avant.
Oui.
Peut-être 2 ou 3 kilomètres avant,
oui.
Où il y a quelques albergues. Non, moi, j'ai dormi au village avant celui-là.
OK.
Donc, 6 kilomètres avant. Donc, j'avais, je pense, 8 ou 9 kilomètres à faire pour arriver à la Croix de Fer. Et après, je continuais mon étape.
Oui.
Mais en effet, quand je suis arrivé là, bah, j'ai eu une montée d'émotion, mais ça a été quelque chose d'incroyable.
Oui.
En voyant ce tas de pierres qui avaient été déposées par les pèlerins du monde entier, dont la plupart des pierres viennent des pays d'où venaient les pèlerins, puisque normalement, le principe, c'est que tu prends une pierre de chez toi,
mmh.
Tu y déposes à l'intérieur tous tes péchés et tu l'amènes jusqu'à la Croix de Fer. Alors, quand j'ai vu ce tas d'intentions positives, bah, ça m'a beaucoup ému. Et puis, ce qui m'a vraiment le plus ému, c'est que moi, j'avais pris une pierre, pas de chez moi, hein, je l'avais oublié, mais j'en ai pris une au début de la meseta.
Ouais.
Et j'y avais déposé tous mes démons,
mmh.
À l'intérieur de cette pierre. Et donc, ce sont mes démons que j'ai laissés à la Croix de Fer. Et ça a été mais un moment très, très puissant. Très, très puissant au niveau des émotions. Je me suis écroulé en sanglots.
Mmh.
Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai pleuré devant cette croix. J'en sais rien. 15, 20 minutes, 25, j'en ai aucune idée.
Mmh.
Et puis, je suis resté encore un peu, le temps de reprendre mes émotions hein, avant de repartir. Et là, j'avais envie de filmer, mais je ne pouvais pas.
Ouais.
J'ai essayé, mais je me suis éclaté. Puis j'ai éteint la caméra. Je me dis, mais enfin, c'est mon moment à moi déjà. Je suis intègre. J'ai envie de partager, mais il y a des choses, je peux pas. C'est trop fort. Je peux pas partager. Donc,
Ouais.
C'était, voilà, j'ai pas tout filmé, je pouvais pas, c'est déjà pas facile de se filmer, mais alors se filmer en pleurant, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Donc oui, la croix de fer, donc El Cruz del Ferro, ça a été quelque chose de très, très puissant pour moi. Je pense une des choses les plus puissantes du chemin.
Mais comment t'expliques ces émotions-là quand on arrive à cet endroit-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est explicable? Parce que si on vient pas de l'Espagne en tant que tel, moi non plus, c'est la même chose. Je lisais dans les livres tout ça, je voyais que c'était quand même une étape importante. Mais c'est vrai qu'à partir du moment qu'on voit la Grande Croix, puis on est en bas de toutes les pierres, les cailloux laissés par les pèlerins, il y a une émotion qui arrive à l'instant. Puis, qui est indescriptible. Je ne sais pas pourquoi ça arrive tant que ça, comme ça, à cet endroit-là, mais tous les pèlerins que j'ai vus à cet endroit-là, tout le monde pleurait.
Oui. Ouais, ouais. Écoute, je ne peux pas t'expliquer non plus. Comme tu dis, c'est indescriptible. Je ne sais pas. C'est la magie du chemin. Je me souviens aussi, avant d'arriver à la Croix de Fer, je ne sais pas si tu te souviens du chemin.
Oui,
on passe
oui.
en un petit sentier comme ça, il y a des pierres, il y a des racines, etc.
Ouais.
Et pendant plusieurs kilomètres, à chaque fois, je me prenais les pieds dans les racines.
Okay.
Et la veille, ça a été la même chose. La veille, sur le chemin, tout le temps, je me prenais les pieds dans les racines, dans les pierres, etc. Alors que j'ai toujours fait attention, enfin voilà, ouais. J'ai jamais eu le problème avant. Et là, je regardais même où je mettais mes pieds, et à chaque fois. Et ça faisait monter tous mes démons. Okay. Mais vraiment, je me mettais en colère, je hurlais sur le chemin, j'en avais marre d'avoir ce truc. À chaque fois, c'est comme si tu allais tomber, et à chaque fois, tu te claques les orteils au fond des chaussures, ça fait mal.
Ah ouais, ouais.
Et ça a duré, mais là, toute la veille et toute cette matinée-là, le temps que j'arrive jusqu'à la Cruz del Ferro, et comme si, justement, j'avais besoin de sortir tous ces démons pour les mettre dans cette pierre, pour aller les déposer à la croix.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui était assez puissant, parce qu'en effet, là, ça m'énervait. Ouais. Tous mes démons étaient en train de ressortir, et j'étais en route pour la Croix de Fer, pour aller les déposer. Alors, est-ce que c'est pas non plus quelque chose, franchement, je me demande si c'est pas non plus ce chemin qui m'a fait vivre ça.
Ouais.
Parce qu'il savait très bien que moi, je devais déposer mes démons, mais il fallait qu'ils sortent, il fallait que je puisse les mettre dans cette pierre pour pouvoir aller la déposer à la croix. Enfin, tu sais, on se pose plein de questions.
Ah ouais, exact.
Il y a tellement de choses, c'est tellement bizarre, c'est tellement pas normal, parce que tu te dis, mais non, tu prends une fois le pied, ok, deux fois, bon, ça va, mais quand c'est toute la journée, que finalement, tu regardes où tu mets tes pieds et que malgré tout, tu te les prends quand même à chaque fois, alors que ça t'arrive jamais, tu dis, mais non, là... C'est vraiment énorme.
Mais t'as tellement raison, parce que là, tu me rappelles quelque chose. C'est vrai que l'étape, juste un petit peu avant, on fait des montées dans des gros cailloux, des grosses roches, puis on redescend encore dans des grosses roches, puis on est comme épuisé parce que on trouve. Tu sais, je me rappelle que je trouvais que le chemin. Je pensais que j'étais perdu. Tu sais, c'est sûr que je suivais les flèches jaunes, mais je trouvais que ce chemin-là n'avait pas rapport vraiment avec le chemin parce qu'il était comme accidenté, le chemin. Et puis, quand je suis arrivé à la Croix de Cruz, je m'attendais même pas de voir la croix tout de suite. Et puis là, je l'ai vu devant moi. Puis c'est vrai ce que tu dis. C'est juste l'étape d'avant. Il y a une expression québécoise qui dit « on rush », on en arrache un peu, on a de la difficulté. Puis on arrive là, puis ça devient tout d'un coup zen. Fait que c'est vrai, ça peut expliquer pourquoi.
C'était après.
Oui, exactement. puis moi, je voudrais savoir, quand tu marchais, mettons exemple, à partir du Camino Francés, parce que c'est sûr que les 800 km du Puy-en-Velay, c'est une chose, mais quand tu arrives au Camino Francés, tu as quand même 800 km dans le corps, c'est pas évident. Tu dois avoir ressenti une fierté incroyable de pouvoir continuer pendant plusieurs personnes. Comme tu disais tantôt, il y a plusieurs personnes qui vont à Compostelle faire ça en étapes, genre 4-5 étapes à la fois. Mais toi, tu continues après pour passer les Pyrénées puis t'en aller direction Espagne. Ça doit avoir été une très grande fierté pour toi de quelqu'un qui partait quand même de loin, comme tu dis, qui avait beaucoup de démons à régler, puis continuer, puis t'en aller dans la partie espagnole.
Alors, Quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai pas été pris par le sentiment de fierté parce que j'étais plutôt pris par le sentiment de tristesse. J'étais triste que le chemin français s'arrête. J'étais triste pour plein de raisons. Je revoyais toutes les rencontres que j'avais faites, toutes les aventures que j'avais vécues sur ce chemin, toute la magie aussi que j'avais vécue. Et je savais qu'en passant les Pyrénées, ça n'allait plus être la même chose. Que ça allait être une page qui se ferme, un livre qui se ferme pour une nouvelle histoire. Avec un point en commun, on marche toute la journée.
D'accord.
Mais donc voilà, j'ai pas eu ce sentiment de fierté. Je pensais pas à ça. J'étais vraiment beaucoup plus dans la tristesse et dans la nostalgie de quitter 800 kilomètres qui était devenu un peu une zone de confort.
Okay.
Donc là, je sais que j'allais quitter cette zone de confort pour d'autres mentalités, la barrière de la langue, etc., etc. Un autre chemin. Je quittais le GR65, c'est plus les mêmes balisages. On ne suit plus les lignes rouges et blanches, mais des flèches jaunes.
Oui.
Enfin bref, il y avait toute une série de raisons. Donc, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Par contre, après, quand je suis arrivé en Espagne, dans les premiers jours, quand j'expliquais aux Espagnols d'où je venais, parce qu'eux, ils ne connaissent pas le Puy-en-Velay. Eux, ils commencent à Roncesvalles,
ouais,
qui se dit Roncesvalles en français.
Ouais.
Ou alors, les plus kamikazes, parfois, commencent de Saint-Jean-Pied-de-Port, comme ça, ils font quand même la montée des Pyrénées. Mais sinon, la plupart commencent à Roncesvalles. Et voilà, donc ils ne savent pas où se trouve le Puy-en-Velay. Alors, enfin, là, c'est quand même un peu perturbant, parce que quand tu es en France, le Puy-en-Velay, tout le monde connaît sur le chemin, puisque même partout dans la France, le Puy-en-Velay, c'est le départ le plus important du chemin de Compostelle.
Ouais.
Et là, c'était assez étonnant de voir qu'aucun Espagnol ne connaisse le Puy-en-Velay. Donc, c'est perturbant. Tu dis, mais enfin, le Puy-en-Velay, quoi. Tu vois le Puy-en-Velay.
Ouais.
Et ben non, ils ne connaissent pas. Et donc, quand j'expliquais que ça faisait 800 kilomètres jusque Roncesvalles, là, ils te prennent tous pour un super-héros. Ils sont tous « waouh, waouh !» Alors qu'il y a des gens qui viennent d'encore bien plus loin que le Puy-en-Velay. Il y a des gens qui partent de chez eux en Belgique, en Allemagne, en Hollande, enfin partout en Europe, qui partent à pied de chez eux. Mais bon, donc ils te voient un peu comme un super-héros. Et là, tu te dis, ça fait réfléchir et tu te dis « bah ouais, c'est vrai quand même, 800 bornes en plus. Bah voilà, j'ai fait 800 bornes jusqu'à Roncesvalles, là j'en suis à 1000. Ouais, c'est pas mal quand même.
Ouais. »
Donc oui, après tu… Mais bon, c'est pas non plus… J'ai toujours eu du mal à réaliser tout le long du chemin, en fait. Même quand je suis arrivé jusqu'à Santiago, c'est 1500 kilomètres. Et là, tu te dis, waouh, ah ouais, j'ai quand même fait 1500 kilomètres. Et puis plus de 1600 après pour Fisterra et tout. Mais je réalisais pas que j'avais fait autant. Et ça avait passé tellement vite. Je suis parti 2 mois et 3 semaines, plus ou moins. Et voilà, à marcher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et finalement… Maintenant, j'ai l'impression que ça a duré qu'une semaine. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends.
Ça a été tellement vite. Il m'a fallu du temps pour réaliser tous les kilomètres que j'avais parcourus. Parce que c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue extérieur, on se dit, ouais, quand même, 1500 bornes, c'est pas rien. Mais c'est faisable. Je veux dire, c'est faisable pour tout le monde. Moi, ça m'a fait une moyenne de 20 km 500, plus ou moins, par jour. Ça va. C'est pas inhumain, c'est tout à fait réalisable. Après, au niveau physique, c'est une chose, au niveau mental, c'est autre chose.
Mmh. Ouais. Toi, est-ce que tu as découvert une partie, toi aussi, à chaque fois je pose ta question-là, ça fait rire les gens, mais est-ce que tu as découvert une partie de ton cerveau sur le chemin que tu connaissais pas? Dans le sens que on pense tellement sur le chemin, on est tellement seul, que moi, j'ai souvent marché en transe. J'ai comme l'impression que j'ai souvent marché, exemple, 4-5 km sans m'en rendre compte. J'étais tellement dans mes émotions et tellement dans ma tête que c'est difficile à expliquer, mais est-ce que tu as vécu ça, toi aussi?
Ouais. Oui, bien sûr, mais moi, j'avais déjà vécu ce genre de choses avant le chemin aussi.
Okay.
Voilà, en fait, la lenteur de la marche, ça nous met dans un état d'hypnose. On a le rythme de la marche, on a les paysages qui défilent, et si tu marches avec des bâtons, tu as le tic-tic et le rythme des bâtons aussi, et ça te met dans un état d'hypnose, en fait. Tout comme quand tu rêvasses en conduisant ta voiture, ou tu vois, l'état d'hypnose, c'est l'état entre le sommeil et le réveil, c'est le point de bascule entre les deux. Et toutes ces choses-là répétitives et lentes te permettent d'entrer dans cet état un peu d'hypnose. Et donc voilà, oui, j'ai vécu ce genre d'état, mais je connaissais déjà avant. Okay. Donc, ce n'est pas, pour moi, ça n'a pas été une surprise sur le chemin.
OK. Moi, c'était une surprise. Moi, la première fois que j'ai vécu ça, je ne savais pas exactement ce qui m'arrivait. Okay. C'est arrivé à Pamplona, entre autres, en Pamplona. Mm-hmm. J'ai passé la ville sans m'arrêter. Je ne m'en avais pas rendu compte que j'avais passé là, mais... Ouais. Ça m'est arrivé très souvent sur le Camino français, mais il y a une autre chose qui t'est arrivée qui est exactement pareille à moi, que j'ai vu sur tes reportages, c'est quand tu as vu la, je sais pas comment vous dites ça en français, mais l'affiche de Santiago de Compostelle.
Oui, moi, on appelle ça panneau.
Ouais, le panneau, exact. Moi, j'ai éclaté cette journée-là, j'ai éclaté carrément. Ça m'a touché plus que de voir la cathédrale, exactement pareil comme toi. Mais quand j'ai vu ça, je me rappelle, il y avait des autos qui passaient devant moi et le monde applaudissait parce qu'il me voyait pleurer et m'applaudissait en voulant dire bravo d'être rendu jusqu'ici. Et quand tu as raconté cette histoire-là, je m'ai tellement reconnu en toi. J'aimerais ça que tu me parles de l'émotion que tu as eue cette journée-là quand tu as vu le panneau de Santiago de Compostelle.
Alors, c'est vrai que quand je suis arrivé à Santiago, déjà un petit peu avant, on est dans les hauteurs là de Santiago, enfin avant Santiago, et on aperçoit au loin les pointes de la cathédrale.
Oui.
Alors là, ça a commencé à monter un peu, et puis je me suis dit oh, j'ai retenu un peu. Et puis on descend, et puis là on longe un genre de grande route comme ça. Là, de nouveau, ça commençait à se réveiller. Oh, 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 on retient, on retient. Et quand je suis arrivé devant le panneau de Santiago, là, je me suis effondré en larmes. Là, c'est clair que ça a été waouh, j'y suis. Alors que la veille, ou le jour même, j'étais en plus un peu de mauvaise humeur parce que j'avais été royalement bouffé par les punaises de lit et que j'en avais partout. C'était horrible. Juste pour le jour en arrivant à Santiago. Enfin bref, mais là, j'ai tout oublié quand j'ai vu le panneau. Alors là, je me suis effondré en larmes. Bon, moi, je n'ai pas eu les gens qui m'applaudissaient parce que je me suis caché avec mon masque. Masque et mes lunettes de soleil. Donc, ça ne se voyait pas de l'extérieur. Enfin, sauf les gens qui vraiment venaient voir tout près et qui voyaient que ça coulait là à côté. Mais bon, ça ne se voyait. Je pense que ça ne devait pas se voir. Mais du panneau jusque quelques centaines de mètres avant la cathédrale, mais je n'ai pas arrêté de pleurer, mais comme un enfant, quoi, en sanglots. Et puis, ça s'est un peu calmé en arrivant près de la cathédrale. Et en effet, quand je suis arrivé sur la cathédrale, bah, là où la plupart des pèlerins se mettent à pleurer, bah, moi, ça va, j'avais déjà tout sorti avant.
Ouais.
Donc, ça a été, j'ai vu la cathédrale, je fais, ouais, ok, ça va, on y est. Bon, en plus, elle est en travaux pour le moment, donc il y a plein de bruit de travaux, on ne voit pas tout le bas de la cathédrale, ça gâche un peu l'arrivée, je trouve. Mais bon, bah, voilà, il faut bien passer par là. Mmh. Mais ça a été, oui, le panneau Santiago pour moi, un moment très, très fort.
Ouais. Moi, j'ai vécu ce beau privilège-là, parce que en réalité, ce qui arrive, c'est que je ne sais pas si tu as vécu la même chose cette année à cause du COVID, mais nous, 100 kilomètres avant, on a la rentrée de tous les Espagnols, les jeunes.
Oui.
Alors, moi, j'étais complètement perdu parce que moi, quand je marchais, on était peut-être une trentaine et un matin, je me lève, on était à peu près 500 sur le chemin. C'était tous des Espagnols. Puis là, j'avais peur de perdre mon moment quand j'arrivais à San Diego, parce que je me disais, ben, on va être plusieurs, puis j'aurais peut-être pas le moment que j'espérais, mais en réalité, c'est pas ça du tout, parce que c'est sûr qu'au départ, quand on les voit arriver, on se demande d'où ils sortent, tout ça. Mais après ça, c'est comme une petite frustration qui dure peut-être 5 minutes, mais après ça, j'ai réalisé que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel pour eux. C'est comme dans leur coutume. Puis qu'il faut qu'ils fassent les 100 derniers kilomètres pour avoir la Compostela. Mais quand on arrive justement là, au panneau de San Diego, j'ai ressenti comme mission accomplie. J'avais réussi à finir le chemin parce que souvent, tantôt tu parlais de la Meseta, tout ça. Souvent, moi j'ai pogné la Meseta à 45 degrés, à des grandes chaleurs, tout ça. Puis. J'en avais un peu arraché durant la Meseta. Puis quand on arrive à ce panneau-là, on se dit ben, on a réussi notre chemin. On est rendu une nouvelle personne. On est rendu une meilleure personne, tout ça. Puis je sais pas. Le feeling est vraiment incroyable.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Puis c'est vrai.
Je veux te parler du sujet pourquoi j'ai fait un podcast.
Oui.
Le retour de Compostelle. Moi, le retour de Compostelle, de mon côté, j'ai eu énormément de difficultés.
Oui.
Je trouve qu'il n'en parle pas assez souvent dans les livres et que moi, je conseille là, vraiment les gens à s'attarder sur le retour parce que le retour, spécialement la première fois que tu vas faire Compostelle, le retour est pas facile parce que tu quittes des gens que tu as rencontrés. Tu quittes aussi je ne sais pas si en Belgique c'est comme ça. Nous, il y a une grosse différence de valeurs. Moi, à mon point de vue, là, les valeurs espagnoles, je les trouve exceptionnelles. Je trouve les gens tellement gentils, tout ça.
Ouais.
Et là, on en revient dans notre quotidien. Je voudrais savoir, toi, comment tu perçois ton retour, puis est-ce que tu as eu beaucoup, beaucoup de misère jusqu'à présent?
Le retour, pour moi, ça a été quelque chose de très, très difficile. Alors moi, je suis allé jusque Fisterra et puis Murcia. Et avant de parler du retour, j'aimerais un peu parler de cette histoire que j'ai vécue à Fisterra et puis Murcia. Quand je suis arrivé à Fisterra, donc là, c'est la fin du monde, on peut pas aller plus loin, hein, tu le sais.
Ouais.
Là, j'ai eu aussi énormément d'émotions. Et puis, j'ai eu une envie incroyable à Fisterra d'acheter des nouveaux vêtements. Il y avait un magasin qui vendait des vêtements pas chers. Et je sais pas, j'avais besoin de me changer. Il fallait que j'achète un nouveau pantalon, un nouveau t-shirt, au moins ça. Je voulais plus avoir mes vêtements de pèlerin. Je sais pas pourquoi. Pourtant, jusque là, j'étais très bien dans mes vêtements de pèlerin. Je m'imaginais même les laisser pour chez moi. Mais arrivé à Fisterra, j'avais ce besoin. Donc j'ai acheté ces vêtements. Et puis quand je suis arrivé à Murcia, la première chose que j'ai faite en arrivant là-bas, je suis allé dans l'auberge, j'ai pris une douche et je me suis changé. Et c'est par après, le soir, j'étais au resto avec un ami que j'ai rencontré sur le chemin. Là, j'ai réalisé ce qui s'était passé. Je me suis souvenu de cette tradition que je connaissais, qui est de quand on arrive à Fisterra, normalement, la tradition, c'est on brûle ses vêtements. Il faut pas le faire, parce que les gens de Fisterra n'aiment pas du tout ça. Mais la tradition, entre guillemets, c'est de brûler ses vêtements. Et ça représente la mort symbolique, voilà, la mort symbolique de notre ancienne vie. Et à Murcia, on repart avec une nouvelle peau. Eh bien, j'étais au courant de cette tradition, mais quand je suis arrivé à Fisterra, j'y ai pas pensé du tout, à Murcia non plus. Mais finalement, c'est ce que j'avais fait. Inconsciemment. À Fisterra, j'ai acheté une nouvelle peau et je l'ai mise à... Je l'ai pas enlevée, évidemment, à Fisterra pour la mettre à Murcia, mais je l'ai... Arrivé à Murcia, j'avais ce besoin intense de remettre cette nouvelle peau pour pouvoir partir dans ma nouvelle vie.
Oui.
Donc voilà. Alors, on part dans une nouvelle vie. Maintenant, on sait que c'est terminé. Il y a le retour. Alors, le retour, au départ, avant de partir, je m'étais dit, le retour, il faudra qu'il soit très lent parce que ça risque d'être... assez puissant.
Ouais.
Donc je m'étais dit, je vais sûrement repartir en plusieurs jours, partir en stop, et puis je verrai bien. Mais pour le moment, avec la période Covid, en Espagne, le stop est interdit. Donc ça marche pas. J'en connais qui ont essayé, ça marche pas. Les gens ne s'arrêtent pas, et si la Guardia Civile passe, ils te disent non, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Ok, donc les trains, c'était la galère, et ça coûtait vraiment très cher. Il y avait aussi le bus, je pouvais rentrer... C'était 26 heures de bus,
ouais.
Dont deux cales, 26 heures de bus. Alors, pour passer 26 heures assis dans un bus, franchement, je préfère regarder la solution des avions. Je voulais pas rentrer en avion, mais là... Et j'ai regardé, et la solution la moins chère et la plus rapide, la plus facile, c'était de reprendre un bus, un petit bus jusque Santiago, de Santiago descendre en bus, 3 heures de bus jusque Porto, et de Porto au Portugal, reprendre un avion jusqu'en Belgique. Et c'était la solution la moins chère, la plus rapide. Alors, finalement, j'ai opté pour cette solution-là. Et donc, en effet, ça a été rapide. Quand je suis arrivé ici en Belgique, encore maintenant, d'ailleurs, mon corps est là, mais mon esprit, il est toujours sur le chemin. Alors oui, ça a été difficile. Premier jour, j'ai pas trop réalisé. Ça fait plaisir de revoir ses proches, ça fait plaisir de revoir ses amis, puis de retrouver son lit. Et puis après, maintenant, hein, ça fait... on est quand, le mercredi, ça fait 2 semaines que je suis rentré. Voilà, c'est... Encore maintenant, ça me perturbe. Plus le temps avance et plus je ne pense qu'à une chose, c'est d'y retourner. Et j'ai plus envie. Et maintenant j'ai une nouvelle vie. Je suis dans une nouvelle vie. J'ai une nouvelle peau. Et je suis revenu dans les habitudes de mon ancienne vie. Et ça ne me convient plus du tout. Alors mes spectacles vont bientôt recommencer. Et bien même ça, j'adore faire mes spectacles. J'adore ça, mais même ça, j'en ai plus envie. Parce que c'est me remettre dans cette ancienne peau. d'aller jouer mes spectacles, etc. Et je n'ai plus envie d'être la personne que j'étais avant. J'ai changé, je suis devenu quelqu'un d'autre. Mmh. Je suis plus Lou, comme on m'appelle, comme on m'appelait avant en Belgique, je suis devenu Yann sur le chemin. Et donc, c'est très difficile, ouais. Alors, ben, je vais quand même les faire, mes spectacles, parce que j'ai besoin d'argent. Puis, c'est vrai qu'au fond de moi, enfin, Lou aimait ça, Yann, je sais pas, je verrai si j'aime encore ça ou pas. Mais c'est perturbant, ouais. C'est... Ouais. Ouais, il faut prendre son temps et... Ouais, et je sais pas comment on peut gérer ça, en fait. J'en ai aucune idée. Et encore une fois, ce sera propre à chacun.
Je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. Puis, tu vas voir, il y a quelque chose, moi, qui m'a aidé un peu. C'est bizarre, mais je faisais le chemin dans ma tête à un moment donné.
Ah oui.
Ça peut paraître niaiseux, mais c'est parce que souvent, tu racontes les histoires des gens et les gens, par politesse, au départ, ils les écoutent. Ouais. Mais toi, t'as plein d'histoires à raconter. Après, tu veux toujours en raconter. Puis là, à peu près ça, ils t'écoutent par politesse, mais ça les intéresse peut-être moins parce qu'ils l'ont pas fait, le chemin. Voilà, c'est normal.
Ils comprennent pas, oui. Entre pèlerins, on pourrait en parler pendant des heures.
Oui, exactement. Et puis là, moi, le truc que je m'ai donné, parce que, comme toi, moi, j'ai souffert vraiment là, très fort pendant 2 mois de temps. Puis je m'ai donné comme truc de marcher dans ma tête. Ça veut dire que, pas nécessairement d'aller faire une randonnée, mais à chaque jour, je me faisais l'étape numéro 1, exemple, des Pyrénées. Ouais. Je me voyais marcher dans ma tête. Après ça, je faisais l'étape numéro 2 des Roncevaux. Je continuais ainsi de suite et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Puis, mais toi, qu'est-ce qui te manque le plus du chemin?
Mais tout.
Tout?
Tout. J'ai fait dernièrement une vidéo, justement, où je répondais à cette question. Tout. Tout me manque. Le fait d'être en connexion avec la nature, le fait de marcher, de voir des gens différents, des paysages différents, de dormir dans des endroits différents, même si mon lit est une des choses qui m'a le plus manqué sur le chemin. Pouh, la magie du chemin, l'ambiance, tout.
Puis, est-ce que tu considères que le chemin a fait de toi une personne très différente d'avant le chemin?
J'ai pas encore assez de recul pour te le dire et je sais même pas si je serai la bonne personne pour en parler parce que c'est pas facile de parler de soi et ça peut-être que mes proches me le diront plus tard, je sais pas. Moi j'ai l'impression, oui en tout cas, de ne plus vouloir de mon ancienne vie. Après je sais pas, seuls mes proches je pense pour répondre à cette question, moi-même je n'en sais rien parce que ça s'est fait petit à petit donc
Okay. Puis en terminant, le mot pèlerin au départ, qu'est-ce que ça te disait? Puis maintenant, le mot pèlerin maintenant, est-ce que tu vois une différence entre le départ et la fin?
Alors au tout départ, avant de partir, quand on connaît pas grand-chose du chemin de Compostelle, on entend pèlerin, on s'imagine un truc catholique où le gars va aller prier tout en marchant, alors que c'est pas du tout ça. Par après, le mot pèlerin devient un peu le mot « je suis un randonneur, mais… » on m'appelle pèlerin parce que je fais le chemin de Compostelle. Et puis après, on se dit, le pèlerin, finalement, c'est peut-être celui qui se pèle, qui pèle toutes ses peaux, hein, justement, au fur et à mesure du chemin, qui pèle tout ce qu'il n'aime pas chez lui. Il enlève toutes ses peaux mortes pour justement en accueillir une nouvelle. Donc voilà. Ouais. C'est vraiment la transformation. Voilà, pour moi, ce pèlerinage n'a pas été catholique, même si j'ai eu beaucoup de magie, etc. Et je me suis quand même souvent posé des questions par rapport aux croyances. Mais c'est vraiment un travail d'introspection. C'est même, le mot est encore trop léger. C'est vraiment un voyage de transformation, je pense.
Ouais, exactement. Souvent, on pense que c'est il y a beaucoup de religions là-bas, mais je le dis souvent, c'est pas tout le monde qui ça. Je dirais 80% des pèlerins là-bas, c'est pas des gens qui sont ultra pratiquants.
C'est ça.
Par contre, quand on voit des églises, comme moi, quand je voyais des églises au Québec, ben je les voyais, mais maintenant, quand je regarde une église, c'est différent.
Exactement. Moi aussi, maintenant, c'est la même chose que toi. Ouais. Ouais. Notamment parce que je j'aimais beaucoup rentrer dedans quand elles étaient ouvertes, très peu sont ouvertes.
Ouais.
Mais je les filmais aussi. Et maintenant, quand je passe devant une église, je la regarde de la même façon que je la regardais sur le chemin.
Ouais.
C'est-à-dire que je prends le temps de bien la regarder de bas en haut, je regarde les détails, etc., que je faisais pas du tout avant.
Ouais.
Ouais.
Puis Yann, pour terminer, j'ai 3 dernières petites questions, mais la première, c'est quoi la suite pour J'emmène vos rêves au bout du monde? Faut absolument pas que tu laisses ça sur la glace. Je sais que tu es un artiste, mais il faut absolument que tu fasses quelque chose avec ça. Tu as trop de talent, mon ami.
Il ne faut pas laisser ça sur la glace, mais ça fait partie un peu d'une des réponses que je vais te donner.
OK.
Alors, pour le moment, je fais des petites suites. Là, je fais des petites vidéos. Je réponds aux questions des gens. Je donne mon avis personnel sur ce que j'ai vécu sur le chemin. Donc, il va encore y avoir 3 ou 4 vidéos qui vont parler de vraiment du chemin de Compostelle, mais en rapport avec J'emmène vos rêves au bout du monde. Alors après ça, c'est vrai que pour ça, j'ai pas envie de laisser tomber, mais
okay.
Alors j'ai envie de recommencer. Il y a plusieurs possibilités. Je peux refaire la même chose sur le chemin de Compostelle, c'est-à-dire par exemple prendre la voie de Vézelay et puis le Camino del Norte, pourquoi pas, et refaire un peu J'emmène vos rêves au bout du monde, donc jusque Santiago et puis de nouveau Fisterra.
Ouais.
Après, des bouts du monde, il y en a partout. Ça peut être le Cap Finistère en France, ça peut être le Détroit de Gibraltar, tu vois, dans le fond de l'Espagne. Voilà, des bouts du monde, il y en a un peu partout. Ça peut être la Sicile, la boîte de l'Italie, enfin, tu vois. Après, il y aura pas ce but. Il va falloir que je fasse des choix. Et j'ai eu aussi une idée, c'est voilà, j'emmène vos rêves chez le Père Noël. Et monter jusqu'en Laponie. Mais là, c'est plus compliqué. Okay. Là, ça sera pas pour tout de suite parce qu'il faut, voilà, c'est pas, il y a pas de chemin avec des auberges, etc. Donc, il faut, je m'organise autrement. Mais en tout cas, les idées sont encore en train de mûrir. Mais en attendant, j'ai d'autres idées.
OK. Mais moi, ce que je voulais dire par là, c'est que je suis sûr que tu pourrais aller voir une compagnie de production de télévision et faire un documentaire qui serait vraiment utile à la télévision parce que c'est tellement bien monté que il y aurait plusieurs petits épisodes et je suis sûr que ça se vendrait très facilement pour toi, là, que tu pourrais faire quelque chose de vraiment intéressant. Là.
Bien, sur le chemin, j'ai rencontré justement une pèlerine qui a une société de production, mais qui travaille plus pour les entreprises et qui m'a dit la même chose, que je devrais contacter des boîtes de prod et elle peut m'aider, elle peut m'appuyer un petit peu. Et elle a aussi un contact très intéressant qui est Antoine de Maximi, justement, qu'elle connaît, puisque, enfin voilà, tu connais Antoine de Maximi, celui qui fait l'émission J'irai dormir chez vous.
Non, je ne le connais pas, je m'excuse.
Ah, ok. Je pensais que tu connaissais. Enfin voilà, c'est une émission française avec voilà, un gars qui part un peu partout dans le monde et son but, c'est d'aller dormir chez les gens.
Ok.
Voilà, et donc ce serait un peu dans ce même style de programme.
OK.
Donc oui, il y a des idées.
Oui, parce que, écoute, comme je te dis, là, c'est trop bon. faut j'encourage les gens à aller te voir aussi sur YouTube, parce que sur YouTube, toutes tes émissions sont là.
Oui, tout est là. Hein.
Puis là, l'autre question, c'est, tu m'as un peu répondu un peu avant, mais c'est quand est-ce ton retour à Compostelle? Quand est-ce ta prochaine marche?
Quand, je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais que je vais repartir, ça c'est sûr.
Okay.
Et à mon avis, je referai j'emmène vos rêves au bout du monde sur un chemin de Compostelle, je pense.
Ouais.
Mais alors quand, là, c'est la grande question. Ça, je n'en ai aucune idée. Ça se complique pour le moment en Europe avec le Covid.
Ouais.
Donc on peut rien prévoir. Et puis, bon, assez vite, l'hiver va arriver. J'ai pas spécialement envie de partir en hiver. Donc peut-être. Peut-être mars, avril, ouais. Peut-être mars, avril.
Puis en terminant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Yann, pour que tu sois vraiment heureux?
Moi, je n'ai pas spécialement envie qu'on me souhaite quoi que ce soit. J'ai envie qu'on souhaite au monde entier d'être heureux, mais pas juste à moi. Ce serait égoïste.
OK, OK. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les beaux moments que tu nous as fait vivre. Je te le dis honnêtement, là, je pense que tous les gens qui ont regardé tes vidéos sont devenus addicts. Là. Je ne sais pas comment dire ça, mais on est devenus... on t'a suivi énormément.
Vous êtes mon fan club.
Oui. Moi, je suis dans ton fan club. Exactement.
Excellent.
Fait que je te souhaite... Merci beaucoup. J'espère que le retour ne sera pas trop difficile. Puis lâche pas, mon ami. T'es exceptionnel.
En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Franchement, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu, qui ont regardé les vidéos. C'était pas le but au départ. Au départ, c'est vraiment pour que les personnes qui m'avaient confié le rêve puissent suivre l'évolution.
Ouais.
Et finalement, voilà, ça a pris un impact que, enfin, je m'y attendais pas du tout. Mais en attendant, voilà, vous avez été là tous pour me soutenir. dans les moments difficiles, etc. J'ai eu des messages d'encouragement tous les jours, des messages, des beaux messages. Ben, voilà, il y avait que de l'amour, quoi. J'ai jamais rien reçu de positif, des insultes ou quoi que ce soit. Non, c'était que du beau, que de l'amour. Donc voilà, moi, c'est moi qui vous remercie. C'est aussi grâce à vous si j'ai pu faire ce chemin complètement, que ça soit dans la tête et même de façon financière. C'est grâce au don des gens que j'ai pu faire ce chemin. Et voilà, c'était. Ben, je suis content qu'il y ait eu un partage. Que voilà, je suis content d'avoir pu apporter tout ce que ça vous a apporté, alors qu'à la base, rien n'était calculé. C'était juste, je suis juste le gars qui fait des vidéos sur le chemin. Mais voilà, apparemment, ça a apporté pas mal de choses à certaines personnes, et tant mieux, parce que ça a ajouté une dimension à mon chemin. Je ne le faisais plus que pour moi, mais je l'ai aussi fait pour toutes ces personnes qui me suivaient, des personnes qui rêvent de faire le chemin, mais qui ne peuvent pas de façon physique. Voilà. Ou des anciens pèlerins comme toi, qui ont revécu le chemin et les émotions à travers mes vidéos, mais c'est super, quoi. C'est génial. Moi, c'était la plus belle des récompenses. Le fait que ce chemin ne m'ait pas servi qu'à moi-même, mais à toute une communauté de personnes, ben, waouh. Et moi, je vous dis merci aussi.
Et moi, je te dis que tu as mis Compostelle sur un piédestal. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, c'est tellement un beau reportage sur Compostelle que même une personne qui n'a pas pensé aller marcher Compostelle, suite à tes vidéos, va être enclin à y aller, là,
Ouais,
c'est sûr et certain.
super, tant mieux.
Mais merci beaucoup, Yann.
Merci à toi, Daniel.
Passe une excellente soirée.
Merci, toi aussi.
Être sur un chemin de Compostelle en Belgique pour parler de Compostelle, c'est pas mal, mais ce serait tellement plus puissant si je pouvais être en Espagne. Peut-être que si je ferme les yeux et que je demande à Jack de me téléporter quelque part en Espagne, peut-être que ça marchera. Bon, après tout, j'ai rien à perdre. Allez, j'essaye. Où est-ce que je suis? Voilà, chica.
Hola.
Donde estoy, por favor?
Estás en Madrid, en la Puerta del Sol, en el corazón de España.
Madrid?
Sí.
Oh, Madrid? Je suis à Madrid?
Oui.
Oh non! Oh, merci, Jack! Merci! Merci!
Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!